Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des invités. Je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Anthony Mazenc. Anthony est avocat au barreau de Paris depuis 2007. Il exerce à titre individuel et intervient principalement en contentieux. C'est un grand féru de procédure civile, en matière plus particulièrement de droit immobilier et de sûreté, garantie et voie d'exécution. C'est une recommandation de maître Jennifer Alter, que vous reconnaîtrez puisque c'est aussi une invitée du podcast. Si je me souviens bien, c'est l'épisode 26. Merci Jennifer pour cette recommandation. Je suis aussi très heureuse aujourd'hui puisque ce soir, pour ceux qui écoutent ce podcast, cet épisode, le jour de sa sortie, ce soir, jeudi 5 mars, c'est la quatrième rencontre Fleur d'Avocat. Et donc, je vais retrouver auditeurs et un certain nombre d'invités autour d'un verre. Ce sera à l'hôtel Le Pial à partir de 20h. Vous êtes encore les bienvenus si vous souhaitez vous joindre à nous. Vraiment, les portes sont ouvertes. Je sais qu'il y aura des invités qui viennent de loin, puisque maître Pauline Désert de Caen viendra tout spécialement pour être avec nous ce soir-là. Et donc, je me réjouis d'avance à la perspective de cette soirée. Les dernières éditions m'ont toutes remplie de joie. Je ne doute pas que celle de demain sera à la hauteur des précédentes. Je remercie Alan Leroy, Stinkem ou encore Livia Salvagno Gasselin pour les très gentils avis qu'ils ont laissés sur Apple Podcast. Je remercie aussi celles et ceux d'entre vous qui veulent laisser des avis sur leur plateforme, mais dont la plateforme ne le permet pas. Comme Spotify, par exemple, on ne peut pas laisser d'avis sur Spotify. En général, vous m'écrivez à cette occasion. Ça me touche beaucoup. Pour soutenir le podcast, il n'y a pas que les avis. Si vous en parlez autour de vous, si vous partagez sur les réseaux sociaux aussi, ça m'aide à faire connaître le podcast et donc ça m'aide en général pour mon projet pour Fleur d'Avocat. Donc voilà, une pensée aussi pour vous qui ne pouvez pas laisser d'avis, mais qui le souhaiterait et qui y pense très fort. Je n'en dis pas plus et vous laisse donc en compagnie de Anthony, Mazenc et moi-même autour de cet échange. Bonne écoute et à la semaine prochaine. Bonjour Anthony Mazenc.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
Avec grand plaisir.
Alors Anthony, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat.
Alors comment, pourquoi, c'est une très bonne question. Je ne me remémore pas en fait le moment exact où j'ai pu avoir cette envie. L'un des premiers souvenirs que je pourrais avoir, c'est au moment de la sortie du film JFK en France. Ou avec Kevin Costner, le film d'Oliver Stone sur l'enquête qui était faite par un procureur de la Nouvelle-Orléans sur l'assassinat de Kennedy. J'avais adoré ce film, et dans ce film, il y a une scène de plaidoirie de Kevin Costner qui m'avait vraiment beaucoup plu. Alors à l'époque, j'étais relativement jeune, donc il était procureur, pas avocat, mais le fil est encore plus fin aux États-Unis qu'en France entre les deux professions. Et donc il plaidait et ça m'avait vraiment impressionné, le fait de pouvoir d'avoir quelque chose à exposer et de devoir le prouver à quelqu'un. Là, en l'occurrence, c'était un jury, parce que je crois que la scène, si pardon aux fans du film éventuellement si jamais je me trompe, mais c'est devant un grand jury pour éventuellement ensuite engager un procès. Et il fait une superbe plaidoirie. Et j'étais vraiment intéressé, bon, pas par la performance d'acteur évidemment de Costner qui n'avait rien à prouver déjà à cette époque, mais ça m'avait plu et je m'étais dit tiens, ça a l'air d'être un métier intéressant, en tout cas de voir que la justice s'intéresse à qu'on doive convaincre quelqu'un pour obtenir gain de cause dans un système judiciaire. Je trouvais ça intéressant. Et pour l'anecdote, c'est assez rigolo parce qu'il plaide magnifiquement bien, mais finalement il perd. Donc finalement, c'était pas voilà. Alors ça, c'est le premier souvenir que j'ai. Donc c'est dans les années 90, donc j'étais vraiment ado ou pré-ado. Ensuite, la fac de droit, dans un premier temps, je m'y étais inscrit pour deux raisons. La première raison, c'était que ma meilleure amie s'y inscrivait. et que je savais pas trop quoi faire à cette époque-là. J'avais une petite idée, c'était éventuellement d'obtenir un DUG ou une licence. À l'époque, c'était encore DUG et licence, pour faire ensuite une passerelle vers une école de commerce. Alors c'est assez rigolo parce que maintenant c'est vraiment la dernière des choses que j'aimerais faire. Et j'ai totalement occulté cette envie. Voilà, à l'époque je me disais oui, pourquoi pas. Je me voyais bien, je sais pas, cadre ou choses comme ça. Finalement, donc pas du tout. Je me suis inscrit donc en fac de droit et ça m'a plu en fait. Les premières années m'ont plu. J'avais sans doute des profs très intéressants. J'avais notamment adoré le droit constitutionnel, que je ne fais pas du tout maintenant, mais encore une contradiction. Mais j'avais adoré. C'est un professeur, donc j'étais à la Sorbonne Paris 1, et c'était le professeur Jean Giquel qui faisait les cours magistraux. Voilà, il avait vraiment il était très vivant dans son cours, je pense qu'il enseigne plus maintenant, mais voilà. Ça m'avait vraiment plu, donc le droit constitutionnel avec la Constitution, donc la manière de fonctionner de la République, etc. Puis l'histoire, ça m'avait beaucoup plu. Et puis j'ai continué, voilà, mon chemin en fac de droit
L'école de commerce a disparu de la
Ah,
circulation.
complètement. Alors, complètement. À partir du moment où je me suis senti sans doute bien là où j'étais, ça me plaisait. Le fait de devoir raisonner avec des règles, de devoir appliquer des principes à des cas d'espèce, etc., ça me plaisait beaucoup. Voilà, avec le recul, évidemment, parce que quand on est étudiant, c'est pas forcément agréable tous les jours, hein. On a les examens, on a l'obligation d'apprendre, de travailler ses cours, de préparer ses TD, tout ça. Avec le recul, voilà, ça a pris un peu de patine, donc forcément, c'est agréable à en parler comme ça. Après, sur le moment, c'est vrai que les périodes d'examen, c'était pas la période la plus agréable.
Oui, mais quand même, on peut se souvenir sans trop de travestissement si on prenait
Non.
du plaisir
Oui,
à ce
parce
qu'on
que
étudie.
déjà la fac m'a convenu. Voilà, il y a des gens à qui ça ne va pas du tout. Moi, le fait d'être libre, c'était pour moi génial, quoi. C'est-à-dire que moi, plus on me contraint, plus je m'échappe. Donc, j'avais toute ma scolarité avant, que ce soit collège, lycée, tout ça, pour moi, c'était une contrainte. Le fait d'être obligé d'aller en cours, d'être obligé de ceci, obligé de cela. La fac, c'était une plus grande liberté. On disait, bah, tu travailles, si tu veux réussir, tu travailles. Si tu veux aller en cours, tu vas en cours. Si tu n'y vas pas, tu as un risque que ça te cause préjudice par la suite. Mais le fait d'être libre, et bah, du coup, j'étais vachement plus assidu. Autant je voulais toujours fuir le collège et le lycée, autant la fac, bah, j'y allais spontanément, presque. Ça me plaisait. Donc voilà, il y avait quand même les TD où c'était voilà le côté un petit peu obligatoire, etc. Mais je m'en sortais un petit peu mieux. Alors vraiment le moment précis où j'ai voulu devenir avocat, je suis désolé, ça va être un peu
Non,
déceptif
c'est
pour
pas
les
déceptif,
auditeurs.
c'est en fait c'est un cheminement
J'ai
où.
pas le moment où je me suis dit. Alors quand j'en discute un petit peu avec mes proches, on me dit que oui, plus jeune, j'en parlais. Et c'est marrant, j'ai pas le souvenir vraiment. Voilà, je sais que. Oui, donc il y avait cet épisode JFK qui m'avait en donné envie, qui m'avait intéressé. Je sais qu'au moment de la terminale, j'en parlais aussi, parce que bon, à partir du moment où on s'inscrit en fac de droit, on se dit quand même que même si on a un projet, paf, continue jusqu'au bout,
Que c'est une éventualité.
c'est une éventualité. Donc forcément, il y a magistrat, il y a avocat, il y a greffier, il y a juriste. Voilà, il y a plein de très beaux métiers. Et non, et puis ça s'est fixé sur avocat, et puis j'ai passé.
Est-ce qu'il y a eu des stages pendant la fac?
Alors finalement assez peu. J'ai fait mon premier stage en 2003, je crois, et puis dans un cabinet d'avocat. J'y suis resté pendant jusqu'en quasiment 2014. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier stage là-bas en tant que vraiment stagiaire de fac pour voir comment fonctionne et puis découvrir le métier. Et après j'ai continué tous mes stages là-bas. J'ai pas
Ouais,
eu à, j'ai pas
ben
eu
ça
à...
veut dire que tu y étais bien.
Oui, j'y étais bien. Donc c'est le premier endroit où j'ai fait un stage, là où j'ai fait mes stages pour mon troisième cycle, et là où j'ai fait mon stage dans le cadre de l'EFB, je suis devenu collaborateur après.
Et c'est un cabinet où tu faisais du... Qu'est-ce que tu faisais dans ce cabinet ?
Alors, c'est un cabinet qui est assez particulier, où il y avait 4 associés, au plus fort, une petite structure, mais qui avait des dossiers extrêmement intéressants, et qui, moi, en tout cas, m'intéressaient. Parce que petit par la taille, mais les enjeux des dossiers étaient très importants. C'était notamment un cabinet qui travaillait pour une société de défisance, donc en bon français. C'est en fait une société qui s'occupait dans lesquelles les banques cédaient toutes leurs créances pour nettoyer leur bilan, on appelle ça. C'est-à-dire que les créances compliquées à recouvrer où il y avait un risque, parce que le débiteur était en situation économique difficile ou en procédure collective, etc. Il créait une structure qui cédait toutes les créances et qui ensuite essayait tant bien que mal de récupérer les créances qui étaient plus difficiles à appréhender. Et donc, il y a deux types de défisances. Il y a celui où, dans les structures où en fait, c'est des créances un peu perdues, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en liquidation judiciaire, des sociétés qui ont disparu ou trop compliquées à récupérer. Et de l'autre côté, vous aviez des dossiers où c'était vachement plus intéressant, parce que c'était en fait des dossiers où au bout du bout, il y avait la possibilité de récupérer de l'argent ou un bien, mais c'était des procédures par contre très compliquées. Avec soit des débiteurs à l'étranger, soit des immeubles avec des histoires très compliquées d'indivision ou des
financements. Donc c'est du droit des obligations très complexe en fait.
Voilà, exactement. Droit des obligations très complexe, procédure complexe, extrêmement formateur. Et moi, je me suis éclaté en fait, parce que c'était toujours très technique. Quand on me demandait à l'époque d'expliquer un peu quel était l'activité du cabinet, j'aimais bien le comparer au Dr House. C'est-à-dire, c'était un peu les cas très compliqués où, en gros, personne ne voulait les faire parce que c'était compliqué, il fallait une spécialisation, il fallait creuser, etc. Donc, c'était un cabinet où il y avait finalement en volume peu de dossiers, mais tous extrêmement techniques et extrêmement intéressants. Et j'ai gardé ce goût pour la technique de droit. Moi, c'est ce qui me passionne dans mon métier, c'est la technique de droit. Ceux qui me connaissent, ils savent aussi que c'est la procédure. Je suis un fan de procédure. Alors, quand je dis ça, on regarde toujours avec des grands yeux.
Comme Martin Pichon, dont j'ai diffusé l'interview il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Pareil, c'est lui, il a eu un coup de cœur pour la procédure, ouais. Et c'est ça qu'il dit. Et comment est-ce que tu avais trouvé ce stage ?
Alors, tout simplement parce que, par le biais de mon beau-père, donc le mari de ma mère, qui était par l'intermédiaire d'une société qui gérait, qui était client de ce cabinet. Puis il avait dit un jour, vraiment, j'ai mon beau-fils qui cherche un stage dans un cabinet. Je sais qu'il parlait à son avocat que c'est un cabinet un peu atypique, et puis surtout vous êtes très compétent, etc. Donc est-ce que ça vous intéresse de prendre un petit jeune pour qu'il voit comment ça se passe? Et du coup, je suis arrivé là-dedans, je suis tombé dedans, et ça a été très difficile. Enfin, c'est pas difficile finalement, mais finalement, je suis pas allé voir ailleurs parce que ça me plaisait.
Mais d'un autre côté, on va pas s'obliger à voir ailleurs.
Voilà, exactement. Tout s'est toujours très bien passé. Après, ça restait au début, au début, même jusqu'à la fin, c'était une collab, mais donc il y avait quand même des obligations de collaborateurs, etc. Mais je trouvais mon équilibre là-dedans. Et
justement, ces obligations de collaborateurs, quand on est un féru de liberté, théoriquement, c'est pas censé s'opposer, hein, mais.
Non, quand exactement. Même, Alors, j'en ai pris mon parti. C'est-à-dire que je pense que en matière de collaboration, comme dans tout, il faut savoir ce qu'on est prêt à accepter, ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Moi, le fait est que c'était un cabinet donc à taille réelle, dont le patron était de la génération de sa génération, c'est-à-dire bien avant la nôtre, et qui fonctionnait à l'ancienne, c'était un peu le patriarche, qui veillait un petit peu à ses ouailles et qui était très, comment dirais-je, à cheval sur le fait qu'il fallait être là, qu'il fallait travailler. On gagnait bien notre vie, mais en contrepartie, il fallait savoir... Après, il ne m'empêchait pas du tout de développer ma clientèle personnelle, au contraire. Mais c'était, à l'ancienne, quoi. C'était effectivement... Alors, ce côté, de être là de telle heure à telle heure, après, c'était une collaboration quand même où si je disais que je pouvais pas être là, j'étais pas là. Hein. Si j'avais des dossiers perso, des choses à plaider, ou des rendez-vous, des choses, c'était accepté. Mais on sentait quand même que voilà, il y avait quand même, c'était, il y avait le patron. Alors que en principe en collaboration, bah, finalement on n'a pas de patron. Finalement on a un client.
Ouais.
On a un client principal, mais voilà. Et mais en fait comme j'apprenais tellement. Et les dossiers que je traitais me plaisaient tellement et que finalement c'était voilà, j'avais pris mon parti de dire c'est un peu oui, il y a un côté contrat de travail, ça on va pas se cacher derrière son petit doigt, mais tout ce que j'apprends là, j'en aurais besoin et je sais que ça sera un plus pour plus tard. Et puis finalement, j'étais pas non plus parce que je suis un féru de liberté, mais je suis un angoissé aussi. Donc il me faut un petit cadre quand même. Et puis ensuite est-ce que vous voulez que je coupe?
Ouais, je préfère.
Désolé.
Du coup, ça fait tout.
Je vais mettre en silence. Désolé. Hein.
Non, il n'y a pas de mal.
Voilà.
Oh, il y a Baba Papa aussi. Oh, ben, décidément.
Oui, ça, c'est la fève. La fève de la galette. Donc, je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je racontais?
Un angoissé aussi. Et
voilà, donc j'ai besoin de cadre. J'ai besoin de cadre pour. Me permettre enfin d'être sécurisé. Donc aussi la collab, tous les mois on a ces rétros qui tombent et c'est une sécurité voilà auquel j'ai renoncé par la suite.
Donc en fait voilà. Ce que je comprends c'est que bon, un mélange entre besoin de liberté,
ouais,
et quand même besoin d'un cadre minimum pour,
ouais,
calmer et combler ses angoisses.
Mmh.
Un cabinet où il y a un côté très voilà, on attend une présence,
ouais,
sûrement un certain type d'horaire respecté, etc.
Mmh. Mmh.
Mais quand même la possibilité de s'absenter en cas de dossier perso, en cas,
ouais,
de rendez-vous,
oui, pas du tout,
quoi que ce soit. Enfin,
respect quand même de l'esprit de la collaboration.
Ouais. Mmh. Et finalement, l'idée de se dire, bon, la contrepartie de ça, c'est quand même que j'y apprends. Certes, c'est contraignant de devoir pointer ou autre, faire cet acte de présence très... Mais... En fait, j'y apprends tellement et le dossier,
oui,
me plaise énormément. Donc,
mmh,
j'y trouve quand même mon compte.
Exactement.
Ouais. Une balance d'intérêt.
Exactement.
Et les dossiers perso,
mmh,
tu les as développés dès le début?
J'ai essayé. Alors, c'est très difficile hein, parce que déjà, on a pratiquement, on n'a pas vraiment le temps. Hein, quand on travaille sur des collabs à plein temps, on est quand même très pris. Donc, éventuellement, les dossiers. Si on peut les obtenir, faut qu'on travaille le week-end ou plus tard le soir, les choses comme ça. Et puis surtout, le plus dur, et ça qui ne change jamais toute la vie de l'avocat, ce sera pareil, c'est de trouver les clients. Trouver les clients, quand on débute, moi je viens d'une famille où il n'y a pas du tout d'avocat du tout dans ce domaine. Des parents qui étaient de la classe moyenne supérieure, si j'ose dire, mais pas du tout avocat qui pouvait éventuellement me trouver des pistes pour des clients. Donc j'ai commencé un peu comme tous les confrères, jeunes confrères. Donc c'était par les amis, les potes qui avaient problème avec leur bailleur, leur propriétaire, des choses comme ça.
En proposant ou en prenant ce qui venait?
En prenant ce qui venait. Ouais, en proposer, c'est difficile au début parce que, enfin, pour moi, ça a été difficile parce que j'avais toujours l'impression que j'avais besoin d'apprendre beaucoup de choses avant et je voulais surtout pas planter quelqu'un. Enfin, ça, c'est toujours ma grande crainte, je pense. Ça me sauve dans certaines situations, je pense. Toujours peur de, voilà, on veut bien faire si quelqu'un fait appel à nous. On veut faire en sorte qu'on les aide vraiment et pas qu'on plombe le dossier ou qu'on les en sorte pas ou voilà. Donc j'avais pas bon, déjà financièrement je gagnais pas des milliers de cents, mais c'est vrai que j'avais pas besoin financièrement, j'avais un train de vie je travaillais, je payais mon loyer, j'ai jamais eu de hobby qui me coûte des millions. j'en avais pas besoin, c'est vrai, et puis ça venait, donc les amis d'amis, et puis on gagne un petit peu après en confiance, après on rencontre dans le cadre de sa collaboration, on rencontre des gens dans le cadre des clients qu'on peut rencontrer, donc les clients restent avec évidemment le patron du cabinet, mais ils peuvent avoir des trucs perso qui peuvent vous éventuellement vous demander.
Donc ça t'est arrivé ça,
les clients du cabinet, ça peut arriver,
qui te confient des dossiers.
Voilà. Oui, tout à fait, parce que ils voulaient pas embêter le cabinet, le gros cabinet pour ce genre de soucis. C'était pas forcément le droit qui traitait non plus. Et puis je pense que mon patron était content aussi de pas avoir à les gérer. Donc c'était moi qui récupérais. J'aime pas dire ça, on se fait la main, parce que ça fait un peu, on utilise des gens comme cobayes, et c'est pas vraiment ça. Justement, je pense que quand on débute, enfin moi en tout cas, je travaillais deux fois plus pour être sûr de pas me planter et vraiment de réussir à faire ce qu'il fallait. Et après, au fur et à mesure, dans ce métier où finalement j'avais pas de connaissances, on se crée un petit réseau, on a ses amis avocats, etc. Et la première source, moi pour moi encore aujourd'hui, la première source de clients, c'est les confrères. Parce que j'ai des amis avocats qui sont dans des domaines différents, qui sont où j'ai pas finalement concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre nous, si j'ose dire. Et au contraire, on s'apporte des clients, parce que voilà, si quelqu'un vient me voir pour un problème de pénal, moi j'en fais pas. Si c'est du droit de la famille, j'en fais pas. Et inversement, mes amis qui font ce genre de matière, quand ça parle d'immobilier, quand ça parle de banque, quand ça parle de financement, etc., il m'envoie plutôt les dossiers, disant moi je touche pas à ça, est-ce que tu peux t'en occuper, etc. Et c'est vraiment la source première avec les clients eux-mêmes qui, quand ils sont contents, reviennent, ça peut arriver, mais surtout communiquent votre nom éventuellement parce qu'ils ont confiance et que ça s'est bien passé, et qu'on essaye de bien faire pour que ça continue.
Et donc, ce que je comprends, c'est que t'as quitté cette collaboration.
Alors, je l'ai pas exactement quitté. Moi, j'étais très bien. Mais le grand patron prenait sa retraite, tout simplement. Mais ça s'est bien goupillé, si j'ose dire, parce qu'à l'époque, il sous-louait ses bureaux à deux jeunes avocats aussi qui étaient partis d'un cabinet, qui étaient associés entre eux, et qui donc ils ont sous-loué une partie des bureaux de là où on était installé avec mon premier patron. Et le courant est passé entre nous, et au moment où il a pris sa retraite, ils nous ont dit voilà, on a besoin d'un collab. Et est-ce que ça vous intéresse? Oui, parce que moi justement, je vais chercher une collaboration sans doute. À l'époque, j'étais pas encore prêt pour l'installation.
Pourquoi?
Pas assez de clients déjà. Donc le caractère, le côté angoissé qui a repris le dessus, en tout cas le côté inquiet, dire que voilà, je pourrais pas, j'assurerais pas, je pourrais pas continuer à vivre tel que je vivais là, voilà, même si voilà, j'avais pas un train de vie non plus totalement délirant, mais j'avais voilà, je considérais que j'aurais pas assez de fonds pour me maintenir à flot. Et puis une nouvelle aventure éventuellement. C'est vrai que quand on est collab, on rentre dans une équipe aussi, donc c'est, pour moi c'était bien.
Il y a pas eu de possibilité de transmission de clientèle?
Si, il y en a eu un petit peu. Si, il y en a eu effectivement. Il y a des clients du cabinet qui a fermé qui m'ont suivi. Voilà, les présentations ont été faites vraiment officiellement, donc et puis ça c'est je travaillais déjà avec eux, et puis voilà, le fait est que on s'entendait bien et que du coup ils savaient où j'avais été formé.
Bah oui, c'est rassurant pour
exactement vous. Ils savaient où je travaillais, et puis la manière de le courant passait bien, donc il y en a effectivement quelques-uns qui m'ont suivi, mais malgré ça, à l'époque, c'était encore un petit peu tôt pour partir. Voilà, par la suite, ça s'est vraiment développé et j'ai pu effectivement m'installer.
Et donc cette deuxième collaboration, oui, par le gré de l'installation
exactement
d'une équipe dans ces locaux,
voilà,
du coup sous-loués.
Donc c'est les locaux sous-loués du coup.
Donc pas de changement, pas de déménagement.
Dans un premier temps, non. Après oui, parce qu'ils ont quitté, voilà, comme le cabinet principal allait fermer. On est arrivé ici, là, dans les bureaux où nous sommes, et j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans.
Même domaine?
Même domaine, à peu près, pas mal de... Puis des choses nouvelles aussi, du contentieux de masse. C'est-à-dire avec un client qui envoie voilà des dossiers par centaines, pas compliqué techniquement, mais qu'il fallait quand même suivre. Donc j'ai appris des choses nouvelles sur ce point-là, un peu sur l'organisation, sur les choses comme ça. Et puis au bout de un peu moins d'un an, 1 an et demi, le cabinet a rencontré des petites difficultés et ils m'ont dit voilà, on pourra plus vous garder comme collab. Donc voilà, moi j'étais encore, je me sentais pas encore vraiment prêt pour m'installer et du coup j'ai recherché une troisième collaboration. J'ai trouvé et je suis resté une journée.
Je
Voilà.
voyais le loup venir.
Voilà, je suis resté une journée. Alors en fait, pas, il n'y avait pas du tout de difficulté avec la personne chez qui j'allais. Mais en fait, je me suis, c'était la chose dont j'avais besoin pour me rendre compte que c'était fini et que je ne voulais plus être collaborateur. Que je ne pouvais plus en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé le premier jour. Franchement, il n'y a pas de, il n'y a pas eu de difficulté ni de relation humaine ni de choses comme ça ni de choses qui m'ont gêné. Mais j'ai commencé à travailler sur un dossier tout de suite et puis je l'ai donné et j'ai dû le transmettre pour qu'on vérifie mon travail en fait. Et pour moi, c'était insupportable en fait. Je pouvais plus.
Est-ce que en plus dans les expériences précédentes, ça y est, vous étiez, enfin, t'étais peut-être arrivé à un stade où on te faisait confiance sur les rendus
Oui,
et
j'étais
tu avais
arrivé un petit
déjà
peu à
acquis.
ça, donc le cabinet où nous sommes là, où j'avais une grande liberté et aussi une grande confiance. À la fin de ma première collab, je commençais aussi à avoir un petit peu plus de bouteilles, si j'ose dire. Et c'est vrai que c'était. Et le fait de devoir, voilà, encore justifier de mon travail auprès de quelqu'un, en fait, c'en était trop. Donc là, on était en début 2015. Donc j'ai fait, moi qui suis plutôt toujours prudent dans le domaine professionnel, etc., j'ai fait vraiment le coup de tête. C'est, je me rappelle encore, ma compagne s'en rappelle encore, je pense. Ou le midi, je l'appelle, je fais non, mais je vais pas rester, c'est pas possible, je peux pas rester, je veux plus, et il faut que je parte tout de suite. C'était l'angoisse. Dans ma tête, c'était un peu l'image de la fin du film des. L'auberge espagnole où Romain Duris arrive à Bercy, je crois, pour devenir fonctionnaire, et en fait il part en courant. Et c'était, moi, dans ma tête, c'était ça. C'était non, maintenant je préfère prendre le risque de pas avoir de rétrocession, de pas avoir de clients, mais je ne peux plus travailler pour quelqu'un.
Ouais,
C'était
je
ça.
suis prêt
Voilà.
à sauter dans le vide.
Exactement. C'était
On en revient à cette balance en fait, hein,
oui.
entre
Ben
les
là, la balance
besoins et.
avait craqué d'un côté, c'est-à-dire c'est fini, maintenant c'est liberté totale, enfin liberté totale, si on veut, hein, toujours évidemment, on travaille pour ses clients, mais c'est plus possible, quoi. Donc, ce qui,
Ouais, ils ont
ouais,
compris.
ça s'est pas très bien passé. Après, moi, je le reconnais, c'était un peu brutal, hein, parce que c'est vrai que je suis dit non, mais je reviendrai pas demain, etc. Et voilà. Je sais pas s'il nous écoute ou pas, mais bon, j'en suis vraiment pas fier. C'est un épisode que je me rappelle pas avec plaisir. Enfin, c'est un peu double tranchant parce qu'il y a le côté, oui, j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais en même temps, c'était pas possible. Je pense que j'aurais basculé ou je sais pas. Non, c'était vraiment
Viscéral.
viscéral. Il fallait absolument que je refasse, enfin que je m'installe. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les avocats avec qui je travaillais ici, on était partis en très très bons termes, et je les ai rappelés, je leur ai dit, écoutez, je suis plus collab, mais je vous prends un bureau. Il y a un petit bon bureau, je vous le loue. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc c'est pas le bureau dans lequel nous sommes, là. C'était un bureau un peu plus petit bureau là-bas. Et du coup, on a travaillé comme ça. Donc finalement, il me redonnait quelques dossiers quand même que je faisais, voilà, mais plus sous forme de collaboration,
Sous forme de sous-traitance.
sous-traitance. Voilà. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça. Moi, j'ai pu un petit peu, oui, il y a eu une période où effectivement, bah, tous les mois, c'était un peu le stress. Mais finalement, en fait, à chaque début de mois, on dit bon, on est le premier, j'ai zéro, donc il faut un miracle. Et finalement, le miracle se faisait tous les mois. Finalement,
Le
voilà.
miracle d'une recommandation par un tiers, par un client, par un confrère.
Par ça, par le fait que quand on s'installe, et ça c'est vrai, quand on s'installe, qu'on est collab et qu'on s'installe et qu'on le dit autour de nous, et ben finalement ça se rappelle un petit peu au bon plaisir des gens. Et on leur dit, voilà, si vous entendez parler de quelqu'un qui cherche un avocat. Et en fait, finalement,
C'est fou à quel point ça revient souvent
ça
dans le
revient à
podcast.
ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a déjà il y a deux choses. La première, c'est qu'on annonce qu'on s'installe. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a la trouille aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille, on prend des dossiers, ce qu'on appelle, j'aime pas trop dire ça, mais des petits dossiers pour lesquels finalement on n'aurait pas eu le temps avant, etc. On le prend. Et puis voilà, de fil en aiguille, voilà, on développe et puis on arrive à décoller comme ça. Après, je me suis toujours dit, bon, si je me plante, je me plante, et puis je retrouverai une collab ailleurs. Tant pis, même si. En fait, quand j'ai senti que la collaboration c'était plus pour moi, je me suis dit à la limite, je sais même pas si jamais, si je me plante en tant qu'individuel, je pense que je vais pas, à la limite, soit je change de métier complètement, soit finalement, même si c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai pu dire, je me mets, enfin, je me mets dans une direction juridique et puis avec les avantages et les inconvénients du salariat, mais avec beaucoup d'avantages, hein, quand on travaille à titre individuel, on s'en rend compte, les congés payés, des choses comme ça. Mais collaborateur, j'y arriverai plus parce que c'est un métier où j'ai trop besoin de liberté, je veux pas qu'on change une virgule de mes conclusions. Pas en tout cas par un autre avocat, par le client, par des choses comme ça, je peux comprendre, je peux expliquer. Mais je supporterai plus qu'on m'ordonne une stratégie ou des choses comme ça, c'est plus possible. Ça, j'y arriverai pas.
C'est pas nécessairement contradictoire parce que moi, ce que je comprends quand même de personnes qui sont au sein de directions juridiques, c'est que finalement, beaucoup disent avoir plus de liberté intellectuelle que quand elles étaient avocats et quand elles étaient collaborateurs. C'est-à-dire que elles ont plus d'autonomie, plus de prise de décision et de pouvoir de décision sur leurs dossiers et sur les consultations qui leur sont faites en interne. Donc, c'est pas nécessairement une contradiction. Et en fait, ça s'est bien passé.
Et en fait, ça s'est bien passé.
Tu dirais que ça a mis combien de temps?
Pour vraiment que ça décolle, entre
Pour
guillemets.
que ça décolle et que tu sois plus angoissé, que tu te dises plus chaque mois est un test.
Je me le dis encore. Mais parce que je
Là,
suis.
ça fait 5 ans, 4 ans?
Là, ça fait. Oui, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. On est en 2020. Ça fait 5 ans. Les interrogations sont pas les mêmes forcément qu'au début, etc. Mais vraiment, au bout d'un an, quand je me suis dit, ça fait un an que je suis installé et j'arrive à me loger et à manger, je me suis dit, bon, ça va, ça se passe. Après, j'ai toujours voulu, évidemment, pendant 2, 3 ans, c'est un petit peu stagné, on va dire, mais tout en gagnant correctement ma vie, voilà. Et puis après, ça s'est vraiment un petit peu plus développé, voilà, avec plus de clients, plus de volume de travail. Et puis voilà, on prend de l'assurance sur ses capacités, on rencontre plus de monde, on rencontre de plus en plus de confrères avec qui on s'entend bien et qui vous envoient des clients, et inversement. Donc voilà, le fait est qu'on. Et puis j'avais beaucoup tendance à, on en parle souvent, c'est très à la mode, le concept de zone de confort, de toujours rester dans sa zone de confort et de, quand il y avait un dossier que je pouvais chanter, que je pouvais le traiter, mais que c'était pas vraiment mon truc, j'avais tendance à passer la main, à dire non, je préfère pas. Et en fait, ça, j'ai un petit peu travaillé sur moi pour sortir de cette obligation de sécurité dans le travail et sur le truc. Enfin, voilà,
C'était lié à des matières qui t'attiraient pas plus que ça, ou c'était plus lié à je suis pas particulièrement expert là-dessus, donc je préfère pas.
c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, comme j'ai toujours un peu travaillé sur des dossiers assez précis, qui mêlent un peu toujours immobilier, financement, etc. Quand on arrivait, qu'on me disait, voilà, j'ai un dossier de. Alors déjà, je fais beaucoup de contentieux, c'est le cœur de mon activité. Donc tout ce qui était conseil, ou par exemple cession de fonds de commerce, choses comme ça, je passais parce que. Alors très, comment dirais-je, un peu de manière idiote, je trouvais ça pas intéressant. Et puis surtout, je me disais, j'ai que des coups à prendre parce que ça m'intéresse pas. Et en plus, je voudrais pas me planter sur quelque chose pour le client, etc. Et ça, j'ai un peu travaillé dessus, et en fait, bon, voilà, c'était totalement idiot de ma part, parce que tout ce que peut nous proposer un client, c'est toujours intéressant. Et que, du coup, je le prenais quand même, ce qui fait que, voilà, du coup, on fait un dossier. Donc, un dossier, c'est souvent un client qu'on a déjà, mais aussi un nouveau confrère qu'on a en face. Et puis voilà, les relations font que ça se développe.
Tu disais t'as travaillé dessus.
Oui.
Et c'est, tu disais en début d'interview que toi quand même la technique juridique te plaisait.
Oui.
Et du coup, il y a presque une dissonance entre ces matières qui m'intéressent pas tellement.
Oui.
Ou est-ce que tu t'es raccroché à ça, à ton intérêt pour le droit et pour trouver une solution juridique
voilà,
pour
tout à fait. C'est toujours moi, je suis toujours très technicien dans l'âme, donc quand on m'apporte un dossier que je, pour une matière que je ne connais pas forcément, pour moi c'est un investissement parce que je peux pas le faire par-dessus la jambe. C'est vraiment désolé, ça fait un peu je sais pas, prétentieux ou un peu mec qui essaie de vendre dans un entretien d'embauche, mais je sais pas faire les choses mal. C'est-à-dire que si on m'apporte quelque chose, voilà, je reprends l'exemple d'une session de fonds de commerce que je n'avais jamais fait avant. Je vais acheter 3 bouquins sur la session de fonds de commerce et je vais me plonger dedans et je vais tout lire et je vais tout faire pour comprendre. Alors, d'une part, ça m'intéresse pour ma culture personnelle. D'autre part, ça peut resservir par la suite dans d'autres dossiers pour lesquels je maîtrise un peu plus, dossiers contentieux, etc. Et puis c'est intéressant, on découvre des nouvelles choses, ce qui fait que voilà, cette forme de un peu de refus de voir plus loin que le bout de mon nez pour certaines matières. En fait, j'ai travaillé comme ça. Après, il y a des matières pour lesquelles c'est vraiment niette. Je sais que ça m'intéresse pas, ou ça m'intéresse pas et que j'arriverai pas à m'y intéresser. Voilà, ça il y en a encore certaines comme ça, comme tous les confrères, surtout à Paris. À Paris, c'est rare qu'on soit généraliste. Il y en a quelques-uns, mais on a tous quand même plus ou moins notre spécialité. Mais tant que ça se rapproche un peu et que je sais que ça pourrait me servir dans mon activité quotidienne, j'essaie de m'y intéresser et je m'y intéresse. Voilà. Mmh. Mais par contre, c'est vrai que c'est un vrai travail en plus, parce que je vais pas traiter la chose. C'est mon côté. Voilà. Encore mon côté angoissé, il faut que ça soit au carré et que s'il y a une interrogation, que je puisse avoir une réponse tout de suite et que je puisse vraiment aller jusqu'au bout de l'accompagnement du client sans qu'il y ait de choses laissées un peu à l'abandon ou pas sur lesquelles j'aurais pas travaillé, sur lesquelles j'aurais pas de réponse. C'est un peu la complémentarité entre le conseil et le contentieux, elle est plus à démontrer. Hein. C'est-à-dire que quand on fait du conseil, il faut savoir, il faut envisager le contentieux derrière. Donc, quand on rédige un contrat, il faut qu'on se pose la bonne question. Comment le magistrat va travailler avec le contrat qu'on a rédigé? Quelle est la jurisprudence sur telle clause, etc. Et inversement, quand on fait du contentieux, ça permet d'avoir des armes pour le conseil, etc. Moi, j'ai vraiment une activité très concentré sur le contentieux. Mais c'est vrai que en faisant un petit peu de conseil, j'ai redécouvert la complémentarité qui est vraiment évidente. Mais je m'éclate toujours plus avec le contentieux.
Ouais. Et tu disais, tu rencontres plus de confrères.
Ouais.
Et donc, est-ce que, en plus du fait de rencontrer des confrères par le biais de dossiers, tu as fait des démarches pour plus faire du réseau, entre guillemets, des démarches actives?
Oui, tout à fait. Je me suis intéressé un petit peu à la vie de l'ordre des avocats.
Donc, tardivement, en fait.
Très tardivement. Très tardivement. Parce que c'était pas du tout dans les cabinets où j'avais travaillé. On connaissait le travail de l'ordre et les
appels de cotisation.
Ça, on les connaissait. On respectait tout à fait le travail de l'ordre, etc. Mais c'était pas, la vie de l'ordre n'était pas vraiment, voilà. Ça, c'est la première chose. C'est effectivement, je me suis intéressé. Quand il y a des élections, je m'intéressais. Chose auquel, malheureusement, la majorité des confrères ne font plus vraiment attention, mais je m'y suis intéressé. Aller aux soirées de l'ordre, c'est pas désagréable, hein. Vous avez des soirées d'élection, on a des petits fours et on mange bien, on rencontre des gens. Et puis deuxième chose que j'ai faite aussi pour développer au moment où je me suis vraiment installé, c'était des formations. On allait parce qu'on a une obligation de formation, donc voilà, d'une pierre deux coups. Formation, ça permet de découvrir découvrir des matières qu'on traite pas forcément. Et moi, voilà, c'était plus pour approfondir certains sujets, etc. Donc, on rencontre aussi des confrères comme ça.
Comment t'as sélectionné, du coup, les formations que tu voulais?
Les formations, dans un premier temps, je m'intéressais vraiment au domaine dans lequel je travaille quotidiennement. Donc effectivement, c'était tout ce qui est travail sur des jurisprudences récentes ou des évolutions de texte qui imposaient un petit peu qu'on se mette à la page. Et puis voilà, de fil en aiguille, on se fait un réseau. J'aime pas réseau parce que ça fait un peu, c'est toujours, ça fait un côté intéressé. Moi, j'ai surtout rencontré des amis, hein, vraiment des gens qui sont des amis maintenant, comme Jennifer, qui m'a, voilà, on s'est rencontrés notamment par ce biais-là, hein, par des rencontres à l'ordre, par des choses, voilà, avec qui maintenant, voilà, ils font partie, ils sont même au-delà de mon cercle professionnel, c'est des gens avec qui, voilà, on se voit, on sort.
Donc, est-ce que c'est aussi parti finalement cette démarche, bon, en plus le fait de savoir qu'il faut développer sa clientèle et qu'il faut donc un peu s'investir, est-ce que c'est parti aussi d'une certaine manière de lutter contre la solitude de l'exercice individuel? Est-ce que tu as ressenti de la solitude en
Non,
t'installant à ton
parce
compte?
que finalement, moi je suis assez solitaire, donc j'ai pas la crainte de la solitude, pas vraiment. Après, oui, effectivement, quand on exerce en individuel, on est un peu tout seul face à soi. Moi je trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, mais ça dépend des personnes. Solitude, je sais pas, oui, un petit peu, quand on rencontre des confrères de notre âge qui sont dans la même situation. C'est super rassurant. C'est-à-dire que on voit qu'on a tous la même problématique, qu'on a tous les mêmes craintes. En fonction des caractères, ça change forcément, mais et c'est top parce que on voit qu'on est tous dans le même bateau, on a tous plus ou moins les mêmes expériences. Donc les mêmes expériences, ça rassure, et les expériences différentes qui peuvent nous être apportées nous ouvrent un peu les horizons, etc. Voilà. Moi, quand je raconte à beaucoup de confrères que toutes mes collabs se sont super bien passées et que c'était top, il y en a plein qui me regardent avec des grands yeux, il y en a qui sont partis en claquant la porte, avec des dossiers à l'ordre, etc., parce que ça se passait mal pour des raisons X ou Y, ou qui se plaisaient pas du tout dans leur cabinet, dans l'exercice qu'ils faisaient. Et moi, je me plaisais où j'étais et j'aimais ce que je faisais. Donc, parfois, ça me regarde un petit peu avec des yeux d'interrogation. Mais justement, c'est intéressant de voir comment ça se passe ailleurs. Mais finalement, se rendre compte que oui, dans l'exercice individuel, et en tout cas dans les confrères que je rencontre, moi, il y a très peu de. J'ai quelques confrères qui sont dans une grosse structure, etc., qui trouvent leur équilibre là-dedans. Mais la majorité des gens avec qui que je fréquente dans la profession, c'est des gens qui sont comme moi, qui sont en individuel ou dans des cabinets de taille de petite taille entre guillemets. Donc ça, on a à peu près les mêmes interrogations, les mêmes craintes et les mêmes désirs, quoi.
C'est amusant parce que dans les formations que j'organise, enfin que j'écris pour faire d'avocat, cet aspect collectif est hyper important. Et je l'avais pas anticipé. Enfin, moi, je voulais que ce soit en groupe parce que effectivement, je trouvais ça intéressant que les personnes puissent se rencontrer, etc. Mais vraiment, les retours que j'ai des clients, c'est à quel point ça leur fait du bien de pouvoir échanger sur une thématique, enfin sur les thématiques qui sont
Bien
amenées en
sûr.
formation. Se rendre compte que ils sont à la fois dans le même bateau avec les mêmes doutes et tout, et à la fois qu'ils ont des manières très différentes de fonctionner et que donc des points de douleur pour certains n'en sont pas pour d'autres
Exactement.
et ils vont s'entre-rassurer et
Non mais
s'entre-porter vers le haut et donc ça leur fait vachement bien.
c'est ça, il faut avoir. Moi, j'évite autant que possible les confrères qui sont toujours au 36e dessous, quoi. Parce que c'est une profession où on parle beaucoup de soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de confrères, tout est trop dur, les clients sont pénibles, on gagne pas notre vie par rapport à ce qu'on fait. Il y a des choses qui sont vraies, je veux dire, mais moi, il y a des confrères qui sont très, moi que j'aime beaucoup, qui sont très rassurants, notamment hein, que tu as interviewé, qui est Pierre-François Rousseau. Moi, je le trouve génial parce qu'en fait, il est toujours très positif. Il raconte son parcours de manière positive et il a des craintes comme tout le monde, mais c'est toujours non, enfin voilà, tu fais ça comme ça, tu fais ci comme ça. Donc on a des dossiers dans lesquels on travaille ensemble. C'est toujours très agréable d'avoir des gens comme ça parce que oui, tout ne va pas bien. Oui, forcément, on rêve de plein de choses, mais moi je trouve qu'on est quand même un métier où on a beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients, beaucoup de contraintes. On voit en ce moment, hein, une grève très dure qui se poursuit. On a toujours des craintes pour l'avenir. On est un peu soumis aux desiderata de nos clients, de la volatilité éventuellement de l'activité. Mais je trouve qu'on a quand même, enfin moi, il y a plein de choses pour l'instant. Même pour moi qui suis quelqu'un d'inquiet, mon travail m'apporte plus qu'il ne me coûte, quoi. Donc c'est voilà, quand c'est positif comme ça, faut pas non plus trop se prendre la tête. Après, c'est vrai que si on m'assurait que jusqu'à ma retraite, j'aurais toujours assez de travail et que ça c'est toujours intéressant, je signe demain, ça y a pas de problème. Mais voilà, ça fait partie du boulot. On est des individuels, on doit gérer le quotidien, plus les urgences, plus tout, plus voilà, c'est parfois très rock'n'roll, mais moi c'est ce qui me plaît.
Et comment est-ce que tu as eu des difficultés à poser tes tarifs quand tu t'es installé?
De moins en moins. En fait, au début, j'avais beaucoup de mal, beaucoup beaucoup de mal, de parler argent, déjà, les premiers clients qu'on a, c'est pas forcément les plus fortunés. Souvent, c'est les amis, etc. Donc, c'est encore plus compliqué. Mais j'avais beaucoup de mal toujours à parler. J'avais du mal à envoyer des factures. J'avais du mal, ce qui est toujours l'impression de s'excuser pour le travail qu'on avait fait et qu'on demandait à être payé, etc. Et en fait, j'ai découvert que il fallait surtout pas agir comme ça. Il fallait revendiquer le fait qu'on ait travaillé, qu'on coûte tant, qu'on peut pas accepter toujours de travailler sans provision, qu'on peut pas toujours accepter des délais très longs faut trouver un équilibre, évidemment, avec le client, notamment. Alors moi, je travaille beaucoup avec des institutionnels, donc c'est pas le même rapport. Et justement, comme je travaillais dans les cabinets pour lesquels je travaillais en tant que collaborateur, c'était des institutionnels, j'avais pas trop appris le problème des honoraires, parce que, voilà, ils connaissent les tarifs, ils savent combien de temps à peu près on va prendre sur tel dossier. Donc la négociation un petit peu avec le client, personne physique, c'est des choses que je connaissais pas, que j'ai découvert en tant que dans mon activité personnelle dans un premier temps. Enfin en tant que développement personnel dans le cadre des collabs. Et j'avais beaucoup de mal, effectivement. Parce que voilà, j'avais toujours peur que ce soit trop cher. J'avais toujours. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait surtout pas aller dans ce sens-là. Il fallait facturer tel qu'on considérait que son travail valait, et que un client qu'on facture pas, il vous respecte moins, parce qu'il considère que tout lui est dû, etc. Et que il fallait de temps en temps taper du poing sur la table, et que on n'était pas gratuit, et qu'on n'était pas et que quand on travaillait, on avait besoin d'être payé.
T'as eu un déclic?
Pas vraiment, pas
Ça
vraiment.
s'est fait un
Ça s'est fait
peu au fil de l'eau où t'as
voilà,
pris confiance dans l'envoi des factures et
au
dans...
fur et à mesure, déjà dans l'annonce de combien on coûte, voilà, tout ce qui est. Alors je peux comprendre parfois oui, on coûte cher, on a beaucoup de charges, mais après, voilà, si on facture, c'est pour arriver à un but, pour permettre aux gens de voilà soit de gagner de l'argent, soit d'en économiser, etc. Et fallait pas que ce soit tabou. Et maintenant, alors, avec un peu plus de bouteilles et un petit peu plus d'expérience, etc., dès que au premier rendez-vous, si jamais la personne commence déjà à négocier un peu sur les tarifs, je mets tout de suite un signal d'alerte et je leur explique que les tarifs, c'est ça. Qu'on peut trouver des accords sur l'échelonnement, des choses comme ça. Mais par contre, le tarif, c'est moi qui fixe, et que c'est un peu dur parfois, mais je leur dis, on est 30 000 avocats à Paris, donc si je me laisse faire sur les honoraires, c'est fini. Et puis surtout, si ça vous convient pas, vous avez, voilà, sans aucune
Animosité, ouais.
animosité ni rien, j'explique que voilà, alors c'est pas, je lutte un peu parce que c'est pas du tout dans ma nature. Donc je dois lutter pour essayer de faire comprendre, et pour moi-même, je me fais violence un peu pour expliquer ça. Mais en fait, c'est un gain de temps et d'argent extrêmement important, parce qu'en fait, quelqu'un qui commence à négocier dès le début, il va négocier tout au long. C'est-à-dire que vous allez enlever la facture, donc ça va être non, mais ça, est-ce qu'on peut réduire? Ça, est-ce qu'on peut, je peux payer dans 6 mois, etc. C'est non. Alors, il y a un moment où il faut. Il faut surtout pas l'interpréter comme être grippe-sous et prête ses sous. C'est juste que bah, j'ai pas de. Voilà, moi, il faut que je vive aussi, quoi. Donc, alors, c'est vrai que pour le coup, ce problème d'argent, je l'ai pas au quotidien, enfin, de règlement de facture. Je travaille beaucoup avec des institutionnels, des filiales de banque ou des banques. Donc, j'ai pas de difficulté là-dessus. C'est vrai. Mais qu'avec les personnes physiques, et je peux comprendre, et je fais en sorte, en amont, de m'intéresser à la situation de la personne. Je sais combien elle gagne, etc. Je sais ce qui est possible, pas possible. Donc, je demande pas l'impossible. Si jamais je vois
Oui, tu
voilà.
t'adaptes, mais t'es ferme
Je
sur ce que
m'adapte,
tu
mais il faut
demandes.
rester ferme. Parce que c'est, bah, déjà, voilà, il y a l'argent, nous, l'URSSAF, on peut pas négocier les tarifs de l'URSSAF. La retraite, bientôt, ça sera encore pire. Du coup, voilà, il faut absolument rester ferme là-dessus. Et finalement, c'est un gain de temps. Et finalement, le client vous en veut pas. Contrairement à ce qu'on peut penser, le client, on l'entend, en fait.
T'as des personnes qui sont du coup qui n'ont pas donné suite?
Oui, mais oui, ça m'est arrivé. Franchement, j'expliquais voilà, combien ça allait coûter pour la procédure. Et puis voilà, les gens disparaissaient. C'est des choses.
Ouais.
Mais voilà, comme dans tout métier, c'est normal. Je
Et c'est
sais.
l'économie des personnes derrière lesquelles tu vas pas courir pour
Non.
ça tu. Ouais.
Non, parce que c'est un mauvais investissement. C'est-à-dire que c'est vraiment. Si les gens considèrent qu'ils ne peuvent pas payer, bah, ils vont le considérer jusqu'au bout. Donc, et je respecte, hein. C'est-à-dire, si jamais, voilà, considère que par rapport à la procédure qu'on engage, je vais coûter trop cher ou que c'est trop. Moi, je respecte tout à fait, et je préfère le savoir dès le début, et le client aussi, parce que voilà, dès le début. Et ça, évidemment, les personnes physiques. La deuxième question, il y a deux questions. La première question, quand ils viennent à rendez-vous, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose dans mon dossier? Et la deuxième, c'est combien ça va coûter? Et c'est tout à fait normal.
Bien
C'est
sûr.
comme tout professionnel. Donc, il faut pas avoir un complexe ou quoi que ce soit. Il faut indiquer. Voilà.
Tu fonctionnes au forfait ou à l'horaire?
De moins en moins au forfait, parce que. Comme je fais du contentieux notamment, on n'a jamais vraiment d'idée sur la durée des procédures et sur comment en face vont répliquer les adversaires. Alors en forfait, je peux le faire vraiment pour une chose très simple. Voilà, si je dois faire désigner en référé à un expert, oui, ça, il n'y a pas de problème. On sait que ça prendra à peu près tant de temps, etc. Mais le forfait, je le fais de moins en moins et je l'explique aux clients. Je leur dis, bah, le forfait, c'est risqué tant pour vous que pour moi, parce qu'en fait, il y en a un des deux qui va se faire avoir, quoi. En gros, c'est un peu ça, parce qu'un forfait calé, un forfait de téléphone, on sait combien on téléphone par mois, il y a une moyenne, une procédure, on ne sait pas. Donc, je préfère éventuellement moduler avec un tarif horaire, plutôt que de faire un forfait qui, moi, va me faire perdre de l'argent si jamais ça prend beaucoup plus de temps que prévu et beaucoup plus de travail. Et inversement, le client, j'aime pas non plus facturer une somme délirante à un client, enfin délirante, qui à l'origine, pour lui, correspondait, mais si jamais ça va beaucoup plus vite, si en face on n'a pas de contradicteur, etc., ça m'ennuie d'avoir. Et le plus simple, bah, c'est de le faire au tarif horaire, évidemment avec un tarif horaire. Tout à fait acceptable, évidemment. Si on a un tarif horaire délirant et qu'on facture la moindre chose qu'on fait, c'est pas ça fonctionnera pas. Donc faut trouver un équilibre entre le service qu'on rend et le montant qu'on facture. Et c'est vrai que ça, c'est difficile parce qu'on ne nous l'apprend pas. On ne l'apprend nulle part, on ne l'apprend pas à la fac, on ne l'apprend pas finalement à l'école du barreau. Il y a des choses qui commence un petit peu à bouger à ce niveau-là pour que ce soit vraiment très pragmatique, mais finalement après on l'apprend en travaillant. Et c'est vrai que moi je suis pas du tout à la base marchand de tapis, j'aime pas ça. Même ça m'agace aussi, même dans le travail, quand dans un dossier on doit négocier un prix ou quelque chose comme ça. Ça m'énerve d'être obligé d'avoir à taper très haut pour obtenir la moyenne. Moi, j'aimerais tellement qu'on se mette tout de suite d'accord, notamment avec les confrères. On se dit, on sait combien ça vaut. Je vais pas commencer à vous dire 100 et vous allez me dire 25 et puis finalement on va finir à 50, c'est idiot. Donc j'aime pas du tout ça. Donc l'argent et parfois effectivement la facturation et l'argent, c'est parfois un petit peu compliqué pour moi, mais
En plus, enfin, non seulement, c'est même difficile à enseigner parce que il y a tellement de solutions différentes. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, toi, tu préfères pas faire de forfait dans les contentieux et plutôt être au tarif à l'heure parce que justement, en fait, si ça t'a pris moins de temps que prévu, ben, t'as l'impression de flouer quelqu'un et d'un autre côté, si ça prend plus de temps, tu as l'impression d'être floué et typiquement, il y a d'autres personnes qui vont quand même préférer fonctionner au forfait parce que simplicité, parce que partage du risque finalement, parce que et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il y a celle avec laquelle on est à l'aise d'une certaine manière, mais et avec laquelle ben la clientèle suit aussi, c'est aussi un sujet. Mais voilà, il y a autant de manières de fonctionner avec l'argent que de
Oui,
personnes
tout à fait.
et même s'il y a des pratiques qui permettent plus ou moins de quand même de se tranquilliser, comme tu dis, le fait d'être ferme, de est-ce que tu te fais rémunérer des acomptes, des provisions, des...
Ça fait partie des sujets, c'est que quand j'ai commencé à avoir des dossiers perso, j'osais pas demander de provision. C'est-à-dire que je trouvais ça bizarre de demander aux gens est-ce qu'ils vous payent par avance quelque chose que vous n'aviez pas encore engagé. Et finalement, bah, quand on se fait avoir une ou deux fois, finalement, ça, c'est la meilleure des guérisons, hein, quand on a travaillé et que bah, finalement les gens derrière payent pas de bonne ou de mauvaise foi, finalement. C'est pas le problème. Il y a des gens qui peuvent pas payer. Donc, si quelqu'un ne peut pas payer, autant le savoir tout de suite. Finalement, quand on explique, moi, je suis toujours très étonné, mais finalement, quand on explique, les gens comprennent. Hein. On leur dit, voilà, moi, pour votre dossier, je vais au moins travailler tant d'heures, à peu près. Ça, c'est vrai que c'est aussi une méthode qui est très développée maintenant, c'est de dire, on travaille à l'heure, mais on vous dit à peu près, in fine, combien de temps ça va prendre? Logiquement, vous faites une moyenne des, voilà. Sans vous engager sur une durée, vous dites, voilà, ça va prendre 20 heures, ça va prendre 10 heures, ça va prendre 50 heures. Ça permet aux gens de se faire un petit peu une idée. Ils savent dans quelle fourchette ça va leur coûter, fourchette haute, fourchette basse. Et la provision, c'est vrai que c'était un peu le sujet aussi parce que bah, j'avais du mal, effectivement, à faire payer quelqu'un par avance. Voilà, parce que moi je serais à leur place, voilà, j'ai un petit côté méfiant, je sais pas, ça me paraissait pas logique, et en fait finalement les gens comprennent, et maintenant voilà, je commence rien du tout tant que j'ai pas de provision. Voilà, ça fait partie parce que voilà, c'est comme ça, et que si c'est pour travailler, autant travailler pour quelqu'un qui vous a déjà un peu payé, parce que si vous travaillez à découvert, bah, il y a toujours le risque derrière. On peut pas se le
Et puis
permettre.
quand on y pense, on achète la baguette de pain avant de la goûter, quoi.
C'est ça. C'est un peu l'exemple de la baguette de pain. C'est pareil quand les gens comprennent pas, quand on facture, voilà, ça arrive. Hein, on envoie une facture, mais attendez, je comprends pas. C'était juste un rendez-vous. Mais attendez, quand vous allez,
Donc toi, tu fais
voilà.
payer le premier rendez-vous?
Alors, ça dépend vraiment du dossier. Ça dépend vraiment du dossier. Soit lors du premier rendez-vous, je donne déjà des conseils, des choses comme ça. Et là, effectivement, je facture parce qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de raison. Soit c'est un dossier pour lequel ça demande beaucoup de travail derrière, enfin, le rendez-vous portera surtout sur le fait est-ce que c'est possible ou pas
Ouais,
possible,
ne
sans
serait-ce que pour
forcément.
avoir une estimation
Voilà.
de...
Et en général, je fais ça. J'ai pas de règle. Dire le premier rendez-vous est gratuit, non. Déjà, ça fait un peu, ouais, bah, encore marchand de tapis, quoi. C'est pour attirer le gogo. Premier rendez-vous gratuit. Non. Si je donne des conseils, vraiment, même à l'oral, des choses comme ça, oui, je facture. Je considère que voilà, j'ai apporté un service. Voilà. C'est juste un dossier où on m'explique, c'est plus le client qui va parler. Non, c'est vrai que ça peut m'arriver de ne pas le facturer et de leur dire, voilà. La discussion qu'on a eue, ça, je le facture pas parce que je considère que voilà, vous m'avez plutôt montré, dire ce que vous voulez. Par contre, évidemment, si derrière, genre, il y a d'autres rendez-vous, ou si je fais une consultation orale ou écrite, oui, là, je vais facturer, effectivement.
Merci. Non, mais c'est... Moi, je... Enfin, pour la tarification de mes formations,
ouais.
J'ai beaucoup de mal à monter mes prix. Et je sais que je... Il faut que je le fasse, d'autant plus que maintenant, ça y est, ça permet de valider des heures de formation continue. Donc,
ouais.
Il faut que je passe cette barrière mentale et que je fasse vraiment facturer à hauteur du travail que ça représente et de la... Enfin, du résultat
mais
que
vraiment...
ça procure. Par contre, j'ai eu aucun mal, et ça, dès le départ, à faire une inscription avec paiement. Enfin, je veux dire, moi, c'était hors de question dans ma tête de recevoir des gens en formation et que ce soit une espèce où ils me donnent un chèque ou je sais pas quoi. Enfin, je voulais pas avoir à courir après les personnes. Et où vous inscrivez, vous payez et le sujet est clos et c'est, enfin voilà, c'est plus un sujet. Vous venez, vous et vous profitez de la formation, vous apprenez plein de choses et c'est génial. Ou enfin voilà, il y a juste donc moi c'est voilà, autant j'ai aucun problème avec cette histoire de paiement préalable, autant c'est vrai que sur le montant j'ai des grosses barrières et je.
Mais c'est vrai que d'une manière générale, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, à partir du moment où c'est ça a l'air gratuit pour les gens, ils dévalorisent tout de suite. Et c'est bon, il y a des expériences qui ont été faites. Des gens qui allaient dans les supermarchés et il y avait des gens qui leur donnaient des produits gratuitement et les gens le prenaient pas parce qu'ils trouvaient ça bizarre, parce que c'était quelque chose qui n'avait pas de valeur. Et effectivement, moi j'avais notamment un dossier dans lequel l'un des premiers dossiers que j'ai fait à titre perso où je travaillais, j'avais beaucoup travaillé, etc. et je n'osais pas facturer. Parce que, alors que la personne n'était pas sans le sou ni rien, mais je n'osais pas facturer, je sais pas, un syndrome de l'imposteur, j'en sais rien, et j'arrivais pas. Et en fait, je me rendais compte que, moins je facturais, moins la personne me respectait. Et plus elle m'envahissait, plus machin. Et quand j'ai commencé à stopper, à dire, bon, maintenant, voilà, que je facture tout, les appels, les réponses aux mails, etc. Finalement, les gens, déjà, ils vous harcèlent moins, forcément, parce que quand vous leur facturez tout, même la moindre des bêtises, parce qu'ils vous dérangent pour rien, vous avez pris du temps, donc faut facturer. Et surtout, il y a une forme de plus grand respect au sens, on considère que il y a un vrai travail derrière. Parce qu'on considère, si on facture pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail derrière, alors que c'est tout l'inverse. Donc il faut, c'est vraiment pas facile. Moi, je me fais vraiment violence parce que c'est vrai que le problème de l'argent dans les cultures latines, c'est toujours un peu plus compliqué qu'avec les anglo-saxons. J'ai pas mal de travaillé dessus aussi et maintenant ça va beaucoup mieux.
Il y a des personnes qui t'ont aidé à travailler dessus?
Alors.
Ou des ressources?
Pas forcément. Je pense que c'est en écoutant les confrères, comment ils fonctionnent, toutes ces choses que j'ai découvertes par moi-même, ça m'a été confirmé. En disant que un client à qui on fait payer tout de suite une provision, il va être plus engagé dans son, même à titre personnel, en fait, les gens s'engagent plus si on facture de manière régulière. Si on facture un peu trop, ça c'est aussi une difficulté dans le métier, trouver le bon rythme pour la facturation. Quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on n'y va pas. Et, en gros, plus on facture, pas meilleur le client sera content forcément, mais il y a une forme de ça, je pense qu'ils s'investissent plus dans leur dossier, ils font plus attention, quand vous demandez quelque chose ils vous le donnent, puis c'est la rémunération normale du travail qu'on effectue, quoi.
Est-ce que parce que du coup ça fait 4-5 ans maintenant, est-ce que tu as travaillé avec un collaborateur, un stagiaire, ou est-ce que tu es vraiment toi?
Alors jamais, c'est vraiment moi.
Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas, tu aimes travailler seul, ou est-ce que c'est plus une histoire de trésorerie et...
Alors c'est les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, un collaborateur, il faut avoir les moyens de le payer, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je travaille avec mes clients de manière, c'est pour ça que je travaille aussi en individuel et pas dans une grosse structure, etc. Je fais un peu du sur-mesure, en fait. C'est-à-dire que je travaille, c'est ma manière de travailler, c'est que le client me paye, et par contre, il aura toujours affaire qu'à moi, quasiment. Il y a, oui, il y a une secrétaire, il y a, voilà, mais pour le boulot, ils ont souvent mon téléphone portable et c'est moi qu'ils ont en direct, c'est pas le collab. Alors je n'énigre pas cette manière de travailler, pas
non,
du
non,
tout.
Non, on parle de ta manière de fonctionner, c'est ma manière à toi, de fonctionner, c'est vraiment très personnel.
Je travaille pourtant avec des structures, des institutionnels quand même, où il y a des gros services juridiques, etc. Mais ils apprécient vraiment ce côté.
C'est des retours qui t'ont été faits de
oui,
leur part.
Oui.
Ils t'ont dit, on apprécie que ce soit vraiment
exactement,
vous qui traitiez notre
mais
dossier.
Mais il y a encore un petit peu ce, notamment dans les grosses boîtes et les grosses structures, les grosses machines. À une époque, ils étaient très très engagés avec les gros cabinets parce que ça répondait à leurs besoins. Mais ils en reviennent un petit peu parce que, alors je dénigre pas les grands cabinets, hein, surtout qu'on fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'est vrai que ils sont en contact avec un associé qui a une équipe et que c'est pas impersonnel, mais ils ont pas forcément la personne qui a été plaidée en ligne, ils discutent pas forcément avec la personne qui a rédigé les conclusions, etc. C'est un autre mode de fonctionnement qui fonctionne très bien, preuve. Mais moi, ils apprécient vraiment que c'est moi qui fais vraiment tout de A à Z. Donc c'est très contraignant.
Tu valorises en fait énormément ta position d'expert, quoi.
Oui.
T'es un expert sur tes sujets, voilà. Tu fais du sur-mesure sur des dossiers, certaine complexité.
J'ai appris comme ça dans le premier cabinet où j'ai travaillé. J'ai appris comme ça, c'est-à-dire que l'associé ou le collaborateur qui faisait le dossier, il faisait tout de A à Z. C'est-à-dire que il rédigeait les conclusions, c'était lui qui allait plaider, c'était vraiment, donc on connaissait le dossier sur le bout des doigts. Donc peut-être moins de dossiers que pas une armoire entière remplie de dossiers dans lequel finalement il faut toujours se replonger dedans parce qu'on n'a pas forcément les chiffres en tête ou juste comme ça. Mais vraiment les dossiers qu'on traitait, on les traitait vraiment de A à Z et on avait et le client appelait, il nous a nous directement. Il nous envoie un mail, donc c'est un côté contraignant, mais il y a un côté pour moi sur mesure, un peu côté haute couture, quoi. C'est vraiment vous avez besoin d'un renseignement, vous avez besoin de faire le point sur le dossier, vous m'appelez, vous m'aurez moi en ligne, mais après à terme ça veut pas dire que je refuse de travailler avec quelqu'un, au contraire, là j'arrive à un stade où j'envisage ne serait-ce que au moins de m'associer avec quelqu'un qui fait dans un domaine différent du mien pour des questions de moyens, pour des questions là où on est, là je sous-loue. Donc
tu privilégierais l'association avec quelqu'un de complémentaire,
oui,
plutôt que le recrutement d'une personne pour te décharger.
Alors aussi, si le but du jeu, ça serait éventuellement aussi prendre un collaborateur. Et le côté formation, j'aimerais bien un petit peu. On m'a formé, j'aimerais bien former
transmettre
quelqu'un.
Transmettre à tout tour.
Transmettre un petit peu. Même si c'est pas dans mes habitudes et choses comme ça, j'aimerais bien quand même le faire. Mais c'est vrai que je resterai quand même. J'arriverai pas à avoir alors je tombe dans la caricature, mais vraiment l'associé qui fait que les rendez-vous clients, qui fait que les cocktails, qui fait non, moi ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est faire surtout en contentieux. Moi je veux taper les conclusions, je veux faire mes recherches, je veux me creuser.
Je pense que
tête.
Ça répond aussi à ton plaisir, toi,
oui,
intellectuel,
enfin, oui.
Et encore une fois, tu l'as dit dès le début de cette interview que en fait le droit t'a plu comme matière, la technique, donc au-delà de cet aspect relation client, en fait, c'est aussi ton plaisir en tant qu'avocat dans ta manière d'exercer que d'aller vraiment creuser tes dossiers et chercher la petite bête.
C'est un travail aussi puisqu'il faut du coup, moi j'ai un côté technique, etc. Et puis j'ai le côté commercial que pour lequel je dois travailler plus parce que c'est pas dans ma nature. Je bords pas ni rien, mais aller me montrer, aller me vendre, etc. C'est quelque chose pour lequel je dois me faire un petit peu violence parce que c'est pas dans ma nature. Mais j'y travaille aussi avec l'habitude, avec voir comment travaillent les confrères, voir comment fonctionne un cabinet. Ça nous permet effectivement. On est obligé de il faut entretenir des bonnes relations avec tout le monde, il faut etc. Mais c'est pareil. Moi, c'est vrai que j'ai le côté un peu très technique c'est vrai que du coup c'est pas toujours naturel pour moi de faire du relationnel ou choses comme ça. Une fois que je suis avec le client et qu'il est que je l'ai dans mon panier, si j'ose dire, il y a pas de souci. Voilà, je pense pas être trop de mauvaise compagnie, mais c'est oui, aller faire les ronds de jambes, c'est pas, j'ai beaucoup de difficultés. C'est pas,
on a les défauts de ses qualités.
Oui, sans doute, mais c'est vrai que je m'améliore. J'essaie de
mais
m'améliorer.
Non, mais avoir les défauts de ses qualités, ça ne veut pas dire être figé dans ses défauts ni dans ses qualités. C'est...
Voilà.
Donc, une réflexion autour de peut-être travailler de manière moins seule, que ce soit via l'association ou via une...
Alors,
avec le,
donc là, comme je sous-loue donc, auprès de mon ancien cabinet, on travaille en bonne intelligence, etc. On peut éventuellement travailler sur des dossiers qu'on peut se refiler, etc. Après, c'est vrai que l'association elle-même, c'est des choses que j'envisage toujours, mais pour des questions matérielles c'était compliqué, on trouvait pas de locaux, voilà, mais c'est quelque chose que je pense à court terme va se réaliser, parce que c'est vrai qu'on peut pas non plus le monde évolue, et puis bah on est toujours plus fort à plusieurs de manière générale, et puis sans doute la pratique du droit va peut-être un peu changer, évoluer. On voit en ce moment il y a beaucoup de choses qui évoluent, donc il faut être un petit peu plus fort. Être tout seul, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est être fort à plusieurs, mais par contre, moi, mon exercice, c'est vrai qu'il est toujours assez seul, quoi. Donc ça a beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients.
Bah, faut que tu trouves le bon équilibre entre... Après, c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs formes d'associations, et ça se trouve, ce sera plus une association de moyens pour, sans nécessairement rentrer dans un affectio societatis, avec une vision commune.
Non, c'est effectivement, c'est quelque chose de très pragmatique. Mais c'est vrai qu'à court terme, c'est la chose que j'aimerais, et puis
t'as déjà en tête la personne ou les personnes avec
qui
tu aimerais t'associer?
Oui, tout à fait, avec une consoeur avec qui on s'en rencontre. Que j'ai rencontré il y a très longtemps, un petit bout de temps maintenant, et on s'entend bien, on a déjà travaillé dans les mêmes locaux, etc. On fait pas du tout les mêmes pratiques, mais avec qui je sais que ça se passera bien, et voilà. Et ça, je pense, c'est aussi une difficulté classique, hein, c'est de trouver avec qui on peut s'associer, avec qui on ne peut pas s'associer. Ça, c'est, voilà.
Je recommande aux auditeurs l'interview de Mathieu Davy à ce sujet-là. Il a beaucoup développé sur ses associations, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment il travaille aujourd'hui.
C'est très compliqué. Naturellement, on a envie de s'associer avec ses amis, mais c'est pas toujours forcément une bonne idée. En même temps, s'associer avec quelqu'un avec aucune affinité, c'est totalement totalement idiot. Donc, faut trouver un juste milieu.
Et cette consoeur avec qui t'envisages de t'associer, donc, elle fait pas du tout la même chose, mais est-ce qu'il y aurait quand même des synergies possibles en termes de...
Oui, c'est possible, éventuellement, oui.
Que ce
oui.
soit d'envoi de dossier
ou de
clientèle.
Je pense qu'on pourrait s'apporter une aide. Alors, de la clientèle, je pense qu'on aura chacun notre clientèle un peu captive, si je veux dire, mais on pourrait, oui, s'aider, parce qu'il y a des points qui se recoupent. Elle est plus dans le droit du patrimoine, donc tout ce qui est succession, etc. Donc, mais c'est des choses sur lesquelles, moi, oui, sur certains points, je pourrais lui apporter, et elle surtout pourra m'apporter des choses.
Donc, plus vraiment le moyen, quoi.
Oui.
Et tes clients institutionnels, c'est des clients... Est-ce qu'il y en a qui font partie des clients qui t'ont été présentés par ton premier patron?
Oui.
Qui sont restés...
Notamment. Avec qui voilà, ça se passe vraiment très très bien, qui on s'entend très très bien, une manière de travailler qui est idéale. Maintenant, en plus, on se connaît, donc l'équipe avec qui je travaille, je les connais très bien. Et puis d'autres institutionnels, après, qu'on récupère un peu à droite à gauche, des sociétés qui permettent aussi de développer et de travailler avec différentes personnes, parce que bon, c'est vrai qu'institutionnel, c'est un bien beau mot, mais on travaille quand même avec des personnes, donc
oui, bien sûr.
Mais oui, il y a un client, un de mes plus gros clients, que j'ai récupéré entre guillemets de ma première collaboration. Et voilà,
c'est une histoire qui dure.
Voilà, exactement.
C'est chouette. Est-ce que tu as une source d'inspiration pour ton exercice?
C'est une bonne question, ça. Une source d'inspiration sur le plan culturel, sur le plan... dans quel sens, en fait?
C'est très large. Ça peut être culturel, ça peut être... Une personne.
Alors, source d'inspiration, finalement, pas vraiment. Je pense que j'ai été. Forcément, on reproduit un petit peu les choses qu'on a vues de nos propres yeux qui fonctionnaient. Donc, effectivement, un petit peu comme le premier cabinet où j'étais. C'est vrai que j'ai des similitudes que je retrouve. Voilà, c'est-à-dire le côté exercice sur mesure. Un petit peu comme ça,
La
qui est
dentelle.
la dentaire un peu. Et puis, non, sinon, je sais pas. J'essaie de tracer un petit peu ma voie. C'est pas facile. On cherche toujours, mais en même temps, ça fait partie de l'exercice, hein. Et puis, tant mieux. Si on se connaissait parfaitement, ça on s'embêterait, je pense, on s'ennuierait avec soi-même. Donc, ça permet de, voilà, trouver un juste équilibre sur la manière dont prendre ce qui nous a semblé, dans ce que j'ai appris, prendre ce que j'ai, ce qui semblait fonctionner, puis l'adapter à ma personnalité, à ma manière de travailler. Voilà, j'essaye de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle qui permettent de.
On n'en a pas parlé ça, mais comment justement cet équilibre, comment est-ce que tu le crées?
Bah, finalement, quand on travaille seul, c'est l'avantage, c'est qu'on est totalement maître, finalement, un peu de son emploi du temps, de sa manière de travailler. Donc, pour l'instant, moi, j'arrive très bien à gérer, voilà. Après, c'est vrai que les vacances, quand on prend des vacances, on n'est pas à l'abri, d'avoir, des clients qui nous appellent,
T'arrives à quasiment déconnecter quand même pendant tes
Non.
vacances? Non, tu travailles depuis. Mais il n'y a pas de jugement, c'est
Non,
pas
alors,
mal.
il y a deux, alors c'est pas un reproche que je fais du tout aux clients ni rien, ils savent que je suis en vacances, mais moi-même, déjà, j'ai un petit temps avant de lâcher un petit peu les histoires, enfin, les dossiers que j'ai en tête, ça tourne, hein, involontairement. Après, les clients qui ont vraiment besoin, bah, c'est l'avantage, l'inconvénient d'être tout seul, c'est que, bah ouais, c'est du sur-mesure, mais du coup, quand on n'est pas là, il n'y a personne pour vous remplacer, donc, voilà. J'arrive à si, l'été oui parce que je prends un peu plus longtemps donc ça nous permet de d'évacuer de voilà. Après pendant les vacances plus petites qu'on essaie de prendre
De
dans la
caler.
voilà c'est plus compliqué parce que bah où que j'aille on a toujours l'ordinateur au cas où non, c'est après est-ce que j'en souffre bah faut admettre que non a priori voilà c'est peut-être moins facile pour mon entourage, mais après j'essaye pas donc je suis pas non plus faux pas, je vais pas donner l'image du drogué au travail ni rien.
J'allais te dire, est-ce que tu as ton ordinateur au cas où?
Oui, c'est au
Ou
cas
est-ce
où.
que tu es en vacances et tu peux pas t'empêcher en
Non.
fait de... C'est parce que c'est deux choses différentes
Non, non,
déjà.
non, non, non. Je prends plutôt vraiment au cas où. Moi, je sais que le fait de lâcher prise un petit peu, ça fait partie du travail aussi, hein. C'est-à-dire que si on s'arrête pas, au bout d'un moment, on sature. On n'a plus d'idées, on n'est plus efficace, on commet des erreurs. Donc non, non, je sais qu'il faut déconnecter, etc. Après, c'est vrai que bah, faut être pragmatique, on a besoin.
Et
Après,
comme tu disais, c'est la servitude de ton exercice très individuel, c'est-à-dire que tu veux avoir cette mainmise sur le fond des dossiers, cette relation très privilégiée d'experts, etc., avec tes clients. Bon, ben, clairement, c'est difficile de passer par, en leur disant, je vous renvoie à mon assistante qui va vous répondre sur vos
Voilà,
questions,
c'est
quoi.
pas possible. Après, c'est vrai que c'est aussi encore un travail que je dois faire sur moi-même. Mais c'est vrai que quand je reçois un mail en vacances, un truc qui n'est pas urgent, quelque chose comme ça, j'y pense. Je suis déjà en train de taper la réponse ou des trucs comme ça. Et ça,
Et finalement, quitte à la taper dans sa tête, autant la taper sur
voilà,
son ordi, quoi.
exactement. Mais ça, c'est pareil. Je commence un peu à faire le trip parce qu'il y a des clients qui savent que je suis en vacances. Qui m'envoie un mail et ils savent que je vais le lire en principe quand je reviens. Et puis, bah non, je réponds. Bah, vous êtes pas en vacances. Donc, bah si, mais c'est juste que voilà.
En plus, les clients, et encore plus les clients qui travaillent dans des entreprises, ils savent ce que c'est que des vraies vacances. Enfin, il y a beaucoup de cadres qui continuent à travailler pendant leurs vacances, faut pas non plus. Ils ont quand même cette conscience de ce que c'est que de faire un vrai out of office, où c'est que les grosses, grosses urgences qui font qu'ils se prononcent, quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, mais vous n'êtes pas en vacances, qu'est-ce qui se passe?
Bah, surtout ouais, le
Sinon, faut taper
fameux
en brouillon pour pas perdre
oui voilà
l'inspiration.
éventuellement mais bon autant aller jusqu'au bout quoi. Après c'est vrai que le coup du out of office bah quand j'étais collaborateur je mettais un message d'absence et maintenant j'en ai plus. Donc, mes clients savent, je leur dis voilà semaine prochaine machin, mais j'ai pas de Après, c'est un peu personnel, c'est que j'aime pas recevoir des messages
Ah,
automatiques qui me disent. Alors, si, c'est normal, enfin, je veux dire, mais c'est juste que c'est toujours un moment où je dis, bah non, c'est normal. Enfin, les gens partent en vacances, c'est tout à fait logique, ils ont le droit. Mais c'est vrai que voilà, c'est un peu le problème de l'immédiateté maintenant du mode d'exercice, c'est qu'on attend toujours une réponse rapide, des choses comme ça. Donc,
ouais, et d'un autre côté, c'est quand même génial d'avoir une
oui.
réponse rapide que, ben, en fait, je
Oui.
suis en
Oui,
vacances.
non, après.
Et tu disais, non, une fois que c'est tapé, autant aller jusqu'au bout.
Oui.
Et ben, je suis pas d'accord avec toi.
Ouais.
Moi, alors, je travaille, je sais pas si je travaille de manière décalée, mais je suis pas du tout du matin.
Ouais.
Enfin, donc voilà. Mais par contre, je suis plus du soir. Donc, ça m'arrive assez régulièrement de travailler le soir. Bon, et puis en plus, parfois, je vais pas du tout travailler un vendredi et je vais travailler un samedi. Enfin,
Ouais.
voilà. C'est aussi mon plaisir d'être complètement
Pareil.
maître de mes horaires. Et il y a des heures et des jours où je m'interdis d'envoyer certains mails parce que je
Ouais.
me dis, non, mais en fait, les gens vont penser que je suis complètement accro à mon truc et que je m'arrête jamais. Et je suis quand même là à parler de bien-être au travail. À un moment, faut un peu.
C'est vrai, faut
Et
trouver
donc, du
un
coup, il y
juste
a des
milieu.
trucs où je me force à les. Enfin, voilà. Ou à pas répondre tout de suite, ou à les mettre en brouillon et à les envoyer à une
Oui,
heure
c'est pareil,
de bureau un peu.
j'essaye de m'y faire aussi, mais après c'est finalement c'est relativement égoïste parce qu'en fait si je sais que je réponds tout de suite, finalement c'est juste pour moi me soulager, c'est-à-dire pour
Ouais.
dire voilà, ça c'est fait, voilà. Sauf
Après, il y a l'autre
que
truc, c'est la programmation. Alors, moi, j'ai pas le Office pro qui permet de faire ça, mais on peut programmer l'envoi
Oui,
à un autre
une autre
horaire.
heure.
Et je pense que c'est une bonne fonctionnalité
Ça
que
peut
je
être
n'ai
pas mal.
pas, mais ça peut permettre de s'enlever le nuage, de se dire, il faut que j'aille dans mes brouillons pour envoyer
C'est
les
ça.
trucs que j'ai mis en brouillon. Bon, en tout cas, tu arrives enfin, t'es satisfait, t'es plutôt satisfait de ton équilibre vie pro, vie perso.
Oui, j'arrive pour l'instant à le gérer. Parfois c'est un peu plus difficile, mais pour l'instant j'arrive à trouver un équilibre et je pense que c'est aussi ça qui fait que je me plais dans ce que je fais aussi. C'est-à-dire que je sais que j'ai une soupape, que je travaille pas 24, etc. Après, je sais qu'il y a des périodes où je vais être obligé de travailler plus, etc. Mais je m'organise et on s'en sort. Mais pour l'instant, oui, j'arrive à trouver un petit peu équilibre. Alors, contrairement à ce que beaucoup vivre quoi, c'est-à-dire vraiment d'être un peu submergé, etc. Alors c'est pas de tout repos, hein, mais globalement je m'en sors.
Est-ce que tu penses que c'est parce que tu t'organises bien, parce que t'arrives bien à te dire non, bon là j'arrête.
Oui, il y a un côté organisation un peu voilà, cadre qui toujours est rassurant pour les gens stressés,
Alors
angoissés
c'est quoi
plutôt.
ton organisation d'angoissé?
Bah, c'est de savoir à peu près chaque jour ce que je vais faire. C'est-à-dire que je sais que. Alors, j'aime pas travailler dans l'urgence. Il y a des gens qui aiment bien, ça les motive et tout. Alors, quand je dois le faire, je le fais, mais j'aime pas. Donc, je prévois toujours longtemps à l'avance. Quand j'ai des conclusions à faire, elles sont faites largement en amont. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui font que je sais toujours à peu près ce que je vais faire le lendemain. Et ça me structure un petit peu. Je sais à peu près combien de temps ça va me prendre, voilà. Et puis je sais que de telle heure je dois être à tel endroit, etc. Et je cadre comme ça. Et évidemment, on a un métier où il y a toujours le grain de sable, il y a toujours l'urgence, toujours la chose. Après, c'est pas, moi, je suis pas désagréable non plus. C'est agréable aussi de pas forcément savoir à quelle sauce on va être mangé dans la journée, mais je cadre quand même.
C'est intéressant que tu dises ça dans le cadre d'une activité contentieuse que beaucoup assimilent à justement une absence de maîtrise de leur agenda ou de leurs horaires, etc. Parce que quand est-ce qu'on reçoit les conclusions ou les pièces adverses, parce que enfin, toute cette extranéité sur laquelle on n'a pas de maîtrise qui est la stratégie de son confrère, quoi,
Bien sûr.
adverse. Mais toi, ça t'impacte pas trop.
Ça m'impacte pas. J'essaye de. Bah, déjà, on connaît hein, les délais devant les différentes juridictions sont relativement longs, donc on peut s'organiser un petit peu à l'avance quand même. Effectivement, ce qu'on n'a pas, c'est comment en face ça va bouger. Après, voilà, comme je sais qu'il y a parfois s'il y a un référé ou autre chose comme ça qui tombe tel jour et que je suis en demande, je sais que en gros le soir à 18h, je vais avoir des conclusions ou plus tard, si on veut essayer de gagner. Et on
Donc en fait, tu as organisé l'imprévu.
C'est ça.
Mais non, mais je comprends. Enfin.
Et même parfois, je suis encore plus tordu que ça, c'est que j'ai déjà les conclusions prêtes pour répondre. Parce que je sais à peu près ce qu'on va me répondre, je me mets dans la place du confrère. Pour les dossiers simples, évidemment, pour les dossiers compliqués, non. J'aurais pas la prétention de dire, je sais ce que va dire en face mon confrère, je suis plus malin que lui, je vais l'attendre au coin du bois. Quand c'est des trucs très simples, où je sais qu'en face, on va me soulever les pots de banane habituels, parce que...
Surtout dans tes dossiers de masse.
Alors ça, maintenant, j'en fais plus, quasiment plus, mais dans certains dossiers avec les institutionnels, où finalement, parfois, ça revient, les problématiques sont les mêmes, je sais à peu près les pots de banane qu'on va me sortir en face. Et du coup, j'ai déjà mes conclusions prêtes. Voilà, je pense qu'il y a 2-3 confrères qui ont dû tomber des nues parce qu'ils m'envoient leurs conclusions le soir à 19h.
À 19h et à 19h30.
À 19h30,
coucou, j'ai conclu.
Voilà. Et puis j'ai répondu un peu point par point au truc. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que... voilà. Quand on n'aime pas quelque chose comme l'imprévu et le travail dans l'urgence, on s'organise. On arrive à trouver des solutions qui permettent de contrer, de maîtriser. Non, c'est impossible. Et puis finalement, tant mieux. Enfin, il faut aussi un peu d'imprévu, un peu de rock'n'roll. C'est pour ça que j'aime bien le contentieux aussi. C'est-à-dire que on sait pas qui on a à faire en face. Chaque personne a ses...
La réaction du magistrat.
Tout. Ça. Voilà. Il y a plein de choses. Donc le minimum que je peux maîtriser, c'est-à-dire mon travail. Du coup, je l'organise, forcément. Et tout ce qui n'est pas maîtrisable, j'essaie d'être organisé pour pouvoir le contrer. Et après, il y a des choses, voilà, complètement pris au dépourvu, ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est tant mieux. Il faut aussi un peu de surprise, sinon, on reste couché. Hein. C'est pas intéressant.
Je suis d'accord. Mmh. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises dans ton exercice au quotidien pour t'aider?
Des outils...
Autres que Microsoft et...
Alors, des outils...
Et Microsoft, d'ailleurs.
Finalement, très peu. J'ai même pas de logiciel de gestion de cabinet. Je fais ça vraiment un peu à l'ancienne. Voilà, je me crée mes dossiers, les trucs. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'eux. Après, oui, beaucoup de... Alors, j'utilise évidemment tout ce qui est fonds documentaires, etc. Voilà, ça fait partie, encore me trouver bizarre, mais ça fait partie de mes petits plaisirs, quoi. Un nouveau dossier dans lequel j'ai une recherche à faire, j'adore, quoi. C'est les trucs.
C'est trop bien, c'est trop bien. Moi, je le dis toujours, les auditeurs vont en avoir marre, mais que un des moments où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même un souci, c'est quand j'étais pas particulièrement intéressée par les recherches que j'avais pas envie de faire. Bon, voilà.
Oui, c'est des choses, voilà. Moi, alors déjà, un nouveau dossier, j'adore. Alors, outre le fait qu'effectivement, on se dit, c'est bien, on va pouvoir manger ce mois-ci, c'est bien. Mais, un nouveau dossier, donc découverte de tous les trucs, etc., recherche. Et alors, le summum, c'est quand je suis obligé d'aller à la bibliothèque de l'ordre. Ça, c'est génial. Et j'adore.
Ça arrivait souvent?
Dans les choses que
tu cherches des prétextes, non?
Il y a un peu de ça. Déjà, c'est un endroit que j'adore. Voilà. Moi, enfin, l'ancien palais, voilà, je pense que t'as beaucoup d'avocats qui ont dû te dire, mais voilà, c'est un endroit que j'adore. J'ai fait, quand j'étais à l'EFB, j'ai fait un stage en juridiction à la cour d'appel. Et c'est un endroit, je rentre dedans, je suis chez moi, j'adore. J'adore les livres, j'adore les bibliothèques. Donc, la bibliothèque de l'ordre, c'est tout, quoi. C'est-à-dire, c'est au palais, il y a plein de bouquins, il y a plein de ressources et on trouve toujours ce qu'on cherche, quoi. Non, je suis pas du genre, j'avoue que ça serait mentir de dire, ah non, je suis obligé d'y aller, c'est embêtant. Non, c'est un aspect que j'ai pas, un fonds documentaire que j'ai pas, voilà, je suis pas abonné à tous les fonds documentaires. Donc, si j'ai pas, je sais que là que je vois que je peux le trouver là-bas, alors, je fonce là-bas, j'adore. Donc c'est moi, voilà, mes outils autres que tout ce qui est bureautique, c'est vraiment les fonds documentaires, c'est la recherche, c'est la technique, trouver vraiment les éléments pertinents, les jurisprudences pertinentes. Enfin, rien d'extraordinaire par rapport à travail d'avocat,
non,
mais ça fait partie, voilà. Et le top du top, c'est quand on trouve ce qu'on cherche et que ça va nous aider, quoi. Un problème qu'on considérait comme irrésoluble ou insoluble plutôt.
Insoluble. J'étais en train de chercher le bon mot.
Insoluble. Ou alors un truc vraiment, un des trucs super brillants en face qu'on vous sort, et on dit, ah, putain, c'est le corner, ça y est, c'est foutu, machin. Et là, on trouve le truc, c'est génial. Moi, j'adore. Ça fait partie de mes plaisirs. Et donc, voilà. Mes outils, c'est vraiment ça.
Et en parlant des plaisirs, quelle est ta dernière joie?
Ça, c'est une bonne question. Ma dernière joie. Alors, j'en ai beaucoup parce que je suis un jeune papa. Donc, c'est toujours, c'est les moments avec ma fille, quoi. Dire il y a un moment, non, les joies, c'est très cucu ce que je vais dire, quoi. Mais c'est vraiment.
C'est une réponse qui revient souvent, et bon, voilà.
Le petit mot, le sourire, la petite bêtise, voilà, c'est, la joie, c'est ça. Après, sur le plan professionnel, bah, ma dernière joie, c'est, voilà, un dossier compliqué, remporté, forcément, c'est pas très original, mais, c'est ça, quoi. Et puis mieux qu'un contrat, mieux qu'un dossier gagné, le client qui remercie, le client qui est content, ça paye pas l'URSSAF comme on dit, mais ça fait plaisir.
Ouais, mais ça donne l'envie de continuer à travailler pour payer l'URSSAF.
Oui, c'est ça. Et puis vraiment, écoutez, quand on sent qu'on a, c'est un métier où on est quand même, je trouve, il y a beaucoup de d'ingratitude un petit peu parfois, je vais pas chouiner, alors là franchement c'est pas mon genre, mais c'est vrai que parfois peut-être aussi le client se rend pas compte puisque c'est nous l'expert, donc on sait comment on a travaillé, on sait comment c'était compliqué d'obtenir quelque chose pour eux, ou voilà, et parfois bah, le client dit ah bah voilà,
cool
ouais. Non mais soit c'était bah c'est normal parce que j'avais raison, parce que je peux comprendre, je peux l'entendre après, voilà. Et c'est vrai que bah un client qui remercie même pour un petit dossier, un truc, et puis la satisfaction d'aider, parfois le plaisir de satisfaction, c'est pas forcément d'avoir gagné un gros dossier avec un gros enjeu, c'est aussi voilà régler un petit problème parce qu'il y avait quelqu'un un problème avec son bailleur, son propriétaire, choses comme ça, et voilà, en deux trois choses qu'on a faites pour eux, ça les a débloqués, ça a débloqué la situation. Bah c'est agréable de se l'entendre dire. On reste voilà. Moi j'essaie de rester le plus humain possible dans ce monde de moins en moins agréable sur certains aspects, et c'est vrai que c'est agréable quand même. Un client qui est content, bon, déjà c'est un client qui revient en général, et puis c'est une double satisfaction.
Je suis d'accord.
Parce qu'on gagne, on a gagné, on a réussi à faire voir son prévenu, mais en plus derrière il y a le client qui est heureux, donc ça c'est bien.
Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe?
C'est une bonne question. Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Alors, je suis toujours un costume. Non, sous ma robe, c'est marrant, je me suis jamais posé la question, en fait, l'image sous la robe. En fait, la robe, pour moi, c'est un doudou. C'est vraiment mon doudou. C'est-à-dire que, avant une audience, je suis toujours stressé, quelle que soit l'audience, quelle que soit, même si c'est tout simple. Alors, avec l'expérience, on n'est pas... On s'habitue, on a toujours le trac, etc. Mais on s'habitue. Mais parfois, oui, il y a vraiment une grosse audience, un gros enjeu, choses comme ça, et on a vraiment plus peur. Et c'est marrant, dès que j'ai... Alors, ça va faire cliché. Dès que je ferme ma robe, dès que j'ai mis la robe, c'est fini, j'ai plus peur. Parce que c'est le côté doudou, c'est-à-dire qu'on s'est déjà retrouvé dans cette situation, on sait qu'on a plaidé, qu'on s'en est sorti bien ou pas, mais on sait que... Voilà, ça donne un signal au cerveau qui dit mais attends, t'es déjà venu ici, t'as déjà plaidé, t'as machin, donc voilà. Et sous la robe, c'est une bonne question en fait. Voilà, comme c'est pour moi, c'est une protection en fait. La question de savoir ce qu'il y a en dessous, ça.
C'est plus le sujet.
C'est pas le sujet. C'est-à-dire que c'est vraiment, moi j'y tiens beaucoup à cette robe. Je l'aime beaucoup. C'est un symbole ultra. Voilà, en plus dans du contentieux, c'est important. Je trouve qu'on soit tous pareils. Même si c'est fictif, on sait que voilà, c'est quelqu'un qui débute et quelqu'un qui, comment dirais-je, qui a un peu plus de bouteilles, il y a plus d'assurance, et que dire qu'on passe de manière égale dans notre message, c'est un c'est un peu se cacher derrière son petit doigt. Par contre, oui, la symbolique de mettre cette robe et d'être, voilà, d'être pas vraiment égal avec la partie adverse. Voilà. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal, ça m'est arrivé de plaider contre des gens qui n'avaient pas d'avocat en face, parce que c'était une représentation non obligatoire. J'aime ma robe, je la mettais, mais j'aimais pas parce que c'était pas pareil. Enfin, et vraiment, sous la robe, c'est une bonne question. Mais globalement, je suis un peu à l'ancienne. Quand je plaide, je suis toujours en costume. Là aujourd'hui, j'avais outre notre rendez-vous, j'avais un autre rendez-vous, donc je suis en costume. Mais il arrive très souvent que je sois en jean, chaussures, chemise. Mais par contre, quand je plaide, même si j'ai la robe, il faut toujours que je sois en dessous. J'ai toujours mon costume. Avec la veste. Alors, je pense pas que c'était le sens de la question.
La question est très large. Donc,
oui, j'ai écouté un peu à l'ancienne. Voilà, on va plaider. Alors, c'est pas par déférence vis-à-vis du magistrat, mais par rapport à ce que représente une audience, ce que représente. Quand je vois un confrère arriver en basket, je peux pas m'empêcher de. Alors, je teste pas pour pas passer pour un vieux con, mais je leur pense pas moins. Je fais non, merde. Enfin, voilà. Important, ça fait partie du décorum un peu. Et puis même moi je me sens mieux. En fait, je suis dans mon rôle. Je pense que ça m'est déjà arrivé en fait de partir le matin et de pas avoir d'audience. Et puis voilà, il y a une urgence à gérer ou remplacer quelqu'un et tout. Donc je prends ma robe et j'étais pas en costume en truc. J'étais pas bien.
Donc sous la robe tu portes vraiment l'avocat.
Un petit peu, oui. Il y a le côté. Mais alors l'avocat, voilà, dans le sens.
L'avocat, le titre quoi, le truc qui te protège.
Oui, c'est un peu, c'est ça quoi. C'est
Tu portes Kevin Costner.
Non, j'aurais pas la prétention. En plus, quand il plaide dans le film, c'est aux États-Unis, il n'y avait même pas de robe.
C'est vrai.
Il plaide en costume. Oui, mais c'est vraiment le symbole de la robe, il est important. Et parfois, c'est vrai qu'on entend que c'est un peu désuet, que c'est un peu, etc. Je pense que non, il faut continuer à le garder. C'est un symbole fort, quand on manifeste, on la met. Voilà, ça représente. Quand on la voit, c'est toujours la robe d'avocat, même si parfois les gens la confondent avec la robe de magistrat. Mais quand on montre à quelqu'un dans la rue, tout de suite, c'est avocat. C'est-à-dire que c'est pas huissier, c'est pas magistrat, c'est la robe de l'avocat. Donc c'est un symbole qui, moi, est important. Et puis c'est vraiment devenu un doudou, quoi. Vraiment. C'est-à-dire que quand je la mets, je me sens. Physiquement, ça me fait du bien. Je me sens. J'ai toujours le stress qui est nécessaire pour avoir les mots que j'espère juste, c'est l'attention qui fait que voilà. Mais c'est pas le stress que j'ai quand j'arrive au tribunal et que je marche dans le couloir. Non, c'est pas la même. Une fois que je l'ai mis, ça va un petit peu. Il y a une petite respiration.
Merci beaucoup, Anthony.
Merci à toi.